Chapitre 40. Oublié dans sa misérable cellule, Torah n'en pouvait plus d'attendre. Refusant de laisser ses geôliers décider de son sort, elle ne voulait plus être séparée de sa superbe cité. Oui, sa cité. Pourtant, Ildakar l'avait rejetée puis reléguée dans ce trou à rats où plus personne ne se souciait d'elle. C'en était trop, même pour une femme si bienveillante. Son propre mari, ce vaurien, avait mis la ville sans dessus-dessous avant de se défiler, fière de son forfait. Depuis très longtemps, elle n'éprouvait plus que de l'indifférence pour lui. Aujourd'hui, à l'idée qu'il l'avait un jour embrassée et caressée, elle avait envie de vomir. Le haut capitaine Avri était un amant d'un tout autre calibre. Doux et attentif, il l'aimait pour sa beauté, pas pour sa puissance. Sur sa couche, Torah toucha ses bras, ses seins puis ses cuisses, et laissa ses doigts explorer la douce toison entre ses jambes. Mais ce qui aurait dû l'exciter ne lui fit aucun effet. Plus minéral qu'humain, son corps n'était plus apte à ressentir du plaisir. En revanche, elle pouvait encore haïr. Maxime, bien sûr, mais aussi les membres du Douma qui l'avaient pétrifié et tous les conspirateurs qui l'avaient condamné parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'elle avait fait pour Ildakar. Oui, tout ce qu'elle avait sacrifié pour cette ville. Désormais, elle n'était plus que la brue mal aimée d'une cité marâtre. Les nouveaux dirigeants ne partageaient en rien ses vues, et ils méprisaient sa magie qui les avait pourtant protégés pendant des siècles. Ses rêves en miettes, Torah avait le cœur brisé. Retournant devant la porte, elle regarda les runes qui l'empêchaient de s'évader. Invoquant une flamme de paume, elle la fit ensuite flotter dans l'air pour éclairer le mur, en particulier le bloc qu'elle avait fissuré à coups de poing. Un début seulement. Elle pouvait faire beaucoup mieux. Par la barbe du gardien, elle devait sortir et voir sa ville. Non, sortir suffirait. Même si ça la révulsait, Ildakar n'était plus son foyer. Pour ne pas s'en apercevoir, il aurait fallu être sourde et aveugle. Nietzsche et Nathan, ces maudits chiens, les membres du Douma et les traits de misère qui s'étaient révoltés, tuant son fils Amos, n'étaient plus ses concitoyens. Après tant de sacrifices, Ildakar ne pouvait plus prétendre être sa ville. Serrant les poings, Torah s'attaqua au bloc de pierre situé au-dessus de celui qu'elle avait fracturé. Le premier coup fut si puissant que la douleur se répercuta jusque dans son épaule, une sensation rassurante en un certain sens. Mais cette puissance ne servit à rien, pas la moindre fissure. La clé de tout, c'était l'ani, ou plutôt la rage qu'elle avait éveillée en elle. Pensant à son corps à demi-mort, au plaisir qu'elle n'éprouverait plus jamais, Torah sentit naître en elle une fureur incroyable, un feu qui la dévorait de l'intérieur. Ildakar lui avait tout volé. Quand elle frappa de nouveau, elle sentit le granit se fissurer sous sa chair minérale. Craignant de se calmer trop vite, elle frappa à coups redoublés. Pour alimenter sa rage, elle se souvint des délicieuses parties de plaisir, puis des nuits avec Avri, son merveilleux amant assassiné par les partisans de Masque Miroir, son monstre de mari en réalité. Quand elle sentit un liquide chaud couler sur ses mains, la Sovréna marqua une pause. Soumis à ce régime, les poings d'une humaine normale auraient été embouillis, là un léger sort de guérison et elle put recommencer à cogner. Inexorablement, Torah détruisit les runes. Quand ce fut fait, il lui suffit de flanquer des coups de pied dans la porte pour la défoncer. Là encore, un être humain normal n'y serait pas parvenu, mais une quasi-statue. Hilar, Torah passa dans le couloir, où elle sentit son don redevenir ce qu'il avait toujours été. Distraitement, elle alluma en une fraction de seconde toutes les torches du corridor. Puis elle baissa les yeux, découvrit l'état lamentable de ses poings et les guérit sans le moindre effort. Même si le sort de pétrification lui valait des séquelles haïssables, elle était de nouveau la Sovréna, superbe et toute-puissante. Enfin libre, elle allait pouvoir faire ce qui s'imposait. Ildakar la méprisait? Eh bien, Outros et son armée ne lui réserveraient peut-être pas le même sort. Si elle se ralliait au général, il l'aiderait à renverser le Douma corrompu et à châtier les traîtres. Après, de nouveau sur le trône, elle reconstruirait la ville. Oui. C'était la seule solution, le moyen de retrouver ses rêves, même si ça impliquait de pactiser avec un très vieil ennemi. Au début, les soldats du général mettraient à sac la ville et terroriseraient ses habitants. C'était le prix à payer pour avoir un avenir meilleur, donc mieux valait ne pas y penser. De plus, Elle ne devait rien à Ildacar, qui serait obligée au contraire de la remercier de se soucier encore d'elle. Dans le donjon, Thora ne risquait pas de se perdre. Pendant son règne, elle avait condamné bien des traîtres à mourir dans l'arène quand elle ne recourait pas au sort de pétrification pour les neutraliser. Cela dit, quelques-uns avaient fini en cellule, histoire d'avoir une chance de se réhabiliter. Parfois, elle les y oubliait si longtemps qu'ils passaient du repentir au désespoir, puis du désespoir à la folie. Un jour, ils finissaient par crever et les rats se chargeaient de leurs restes. Pour les félons, Thora n'avait aucune sympathie. Même chose pour ses ennemis actuels, mais sur sa liste, certains noms étaient prioritaires. En quête d'une sortie, Thora déboula dans une salle où deux gardes jouaient à un jeu bizarre avec des bâtonnets. Excités, ils misaient par grosses piles des pièces et des bijoux volés. Thora reconnut les sagouins qui l'avaient si maltraité. Quand ils la virent enfin, ils se levèrent d'un bond et l'un des deux cria «
La Sovrenna s'est évadée !»
Avec un point d'air, Thora plaqua contre un mur le sale type qui avait crié. Puis elle poussa et frissonna presque de plaisir, hélas elle ne le pouvait pas vraiment, quand elle entendit craquer les côtes. Le torse défoncé, le geôlier mourut vite mais dans d'atroces souffrances quand même. Affolé, l'autre homme tenta de s'enfuir. Le cueillant au vol, quand il passa devant elle, Thora lui fit éclater le crâne, puis le point d'air écrabouilla ses restes, faisant jaillir contre le granit une coulée de matière grise. La Sovrenna reprit son chemin, défonça porte après porte et fit détaler d'autres gardiens. Quelques-uns choisirent de se battre, mais elle eut au fait de les mettre hors d'état de nuire. En pleine possession de sa magie, sans rune pour la contrarier, Thora était invincible. Atteignant la porte bardée de fer du donjon, elle prit à peine le temps de s'arrêter pour la faire voler en éclats avec un sortilège. Une fois dehors, elle s'emplit les poumons d'air frais, s'enivrant du parfum inimitable d'Ildacar. Si de la lumière brûlait aux fenêtres de toutes les maisons, on ne voyait bouger aucune ombre et il n'y avait pas un seul passant dans les rues. Levant les yeux, Thora aperçut les ruines de la pyramide sacrificielle. Ce soir de mauvaise mémoire, Nietzsche avait saboté son plan consistant à réactiver le linceul de l'éternité, le début de la catastrophe. Thora allait devoir faire de grands changements, mais ce serait impossible tant qu'Ildacar lui resterait hostile. Du coup, il faudrait organiser des purges. Débarrassée de sa vermine, la cité retrouverait la gloire qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Pour sauver sa ville, Thora allait devoir s'allier avec son pire ennemi. Mais aujourd'hui, le plus grand danger pour Ildacar, c'était elle-même. Oui, la cité s'auto-détruisait et pour l'en empêcher, Thora devrait pactiser avec un démon. Pour ça, il lui fallait avant tout sortir. Dans le camp ennemi, on l'accepterait, ça ne faisait pas de doute. Soudain glacée, Thora s'immobilisa. Et si les soldats d'Outros, ivres de vengeance, rasaient purement et simplement Ildacar? Dans l'histoire, il était arrivé que... Non, elle ne devait pas penser à ça. À long terme, c'était la seule voie, l'unique moyen de retrouver son trône puis de sauver ce qui pourrait encore l'être. Enfin libre, Thora devait se montrer très prudente. À coup sûr, Nietzsche, Nathan et les autres apprendraient son évasion avant qu'elle ait quitté la ville, mais prendre un peu d'avance ne pouvait pas lui faire de mal. Entendant du bruit assez loin de là, Thora chercha à en localiser la source. Tout en bas de la ville, au pied de la muraille, il se passait quelque chose. Des hommes et des femmes se pressaient dans la pénombre. Dehors dans la plaine, les collines étaient en feu. Une bataille en pleine nuit? Quoi qu'il en soit, ça tombait bien. Dans le chaos, elle aurait une chance. Rasant les murs, elle dévala les rues et finit par tomber sur un jardinier amateur de travail nocturne. Poussant une brouette remplie d'engrais, il s'occupait des vignes, s'assurant que leurs racines auraient tout ce qu'il leur fallait. « Bonjour, gentille dame, » dit-il sans lever les yeux de son ouvrage. Curieux malgré tout, il redressa la tête.
« Sovrenna Thora, je vous croyais en... »
D'un geste, Thora brisa la nuque de l'imbécile qui s'écroula sur sa brouette. En général, tuer un de ses sujets la culpabilisait un peu, mais elle n'avait plus rien à voir avec ces gens, de simples obstacles à son évasion. En approchant du mur d'enceinte, Thora entendit des cris, des hennissements et des bruits de pas précipités. Enfin, en vue de la porte, elle découvrit une armée en déroute qui tentait de revenir en ville. Une armée? Plutôt une bande de gueux sans uniforme ni cuirasse et équipée de briques et de brocs. Que se passait-il donc? Dans cette horde, des hommes de la garde couraient à côté de gladiateurs et d'esclaves. Stupéfié, Thora vit même des Moracites dans le lot. Comment pouvait-on tomber si bas? Corrompu jusqu'à la moelle, Hildacar n'était plus qu'un immonde cloaque. La Sovréna déchue tenta de donner un sens à ce qu'elle voyait. Les défenseurs avaient-ils lancé une attaque? Une bande de minables contre les soldats entraînés et disciplinés d'Outros? Couverts de sang et de poussière, les combattants qui revenaient en ville ne ressemblaient pas à de glorieux vainqueurs, un ramassis de miteux plutôt. Plissant les yeux, Thora vit Nietzsche perché sur un destrier, Nathan derrière elle. Quentin les suivait flanqué de Damon avec Elsa en croupe. Le seigneur Auron et Dame Olgia étaient aussi du lot comme s'ils appartenaient au Douma. Ivre de sa propre puissance, Lani fermait la marche. Alors que la porte finissait de se fermer, les derniers minables se faufilèrent entre les battants. Les mains tendues, Damon et Quentin invoquèrent un sort de protection. Furieuse, Thora comprit qu'elle ne pourrait pas sortir par là. Et toutes les poternes devaient être protégées ainsi. Si elle voulait abandonner ses chiens à leur destin, la Sovréna devrait trouver un autre moyen de sortir. Peu après la fermeture de la porte, les hommes d'Outros recommencèrent à la marteler de coups. Dans sa cellule, Thora avait réussi à démolir le mur. En unissant leurs forces, ses soldats viendraient tôt ou tard à bout de la muraille ou des lourds battants. Si nombreux et si puissants soient-ils, les sorts de protection ne résisteraient pas. Oui, mais à ce moment-là, Thora comptait bien être de l'autre côté avec les vainqueurs. Alors que les combattants se regroupaient derrière la porte, Nietzsche continua à crier des ordres et les membres du Douma firent signe aux officiers de venir au rapport. Soudain, un groupe de gardes affolés fit irruption dans la grande cour.
« La Sovréna s'est échappée !»
cria l'un d'eux.
« Elle s'est frayée un chemin hors du donjon !»
Thora partit au pas de course, dévala des rues en succession, puis s'engagea sur les marches qui menaient au chemin de ronde. En bas, toutes les sentinelles devaient être sur le pied de guerre, rendant presque impossible un passage en force. Depuis les créneaux, elle pourrait sauter, et avoir une bonne chance de s'en tirer grâce à sa magie et à son corps anormalement solide. Un plan qui n'avait rien de subtil mais qui pouvait réussir en jouant sur l'effet de surprise. Oubliant toute prudence, Thora gravit les marches 4 à 4. Sur un palier, des hommes lui barrèrent le chemin.
« Elle est là! La Sovréna est là !»
Thora renversa ces imbéciles comme des quilles sans prendre le temps de les tuer. Pour l'heure, il suffirait qu'ils ne soient plus dans ses jambes. Sur le chemin de ronde, des sentinelles crièrent quand elles la virent dans l'escalier. Des flèches volèrent, la plupart manquant leur cible, mais deux d'entre elles la touchèrent et gratinèrent sa peau minérale puis rebondirent au loin. Thora sentit du sang couler sous sa robe, mais elle s'en occuperait plus tard, après son évasion. Derrière elle, des gardes tentaient de la rattraper. Elle continua à monter, écœurée à l'idée que tous ses sujets se soient retournés contre elle. En bas, les membres du Douma, plus Nietzsche et Nathan, se ruaient vers le pied de l'escalier. En haut, les sentinelles criaient. Prise entre deux feux, Thora continua à monter. Mettant pied à terre, Nietzsche s'engagea dans l'escalier et cria
« Nous t'arrêterons, Thora !»
Piquée au vif, la Sovréna déchue accéléra le pas. Dès qu'elle prit pied sur les créneaux, elle fit tomber les sentinelles qui tentèrent de lui bloquer le passage. Basculant dans le vide, trois hommes hurlèrent de terreur tout le temps, très bref, que dura leur chute. Au pied de la muraille, Thora vit une masse grouillante de soldats ennemis. Si elle sautait, elle pourrait leur parler et demander à être conduite devant Outros, l'aidant à briser les chines d'Hildacar. Elle le convaincrait ensuite de la réinstaller sur le trône. Les faiblesses de la ville, nul ne les connaissait mieux qu'elle. Certes, mais la pique était impressionnante, et elle n'avait aucune garantie de survivre à la chute. Et si elle réussissait, ses soudards en bas l'écouteraient-ils ou la tailleraient-ils en pièces sans se poser de questions? Hésitante, elle sonda le gouffre. Déboulant sur le chemin de ronde, Nietzsche fondit sur elle. Naguère long et bien peigné, ses cheveux blonds se dressaient comiquement sur sa tête. Se souvenant de leur duel précédent aisément remporté, Thora invoqua un point d'air. Hélas, la garce blonde se révéla plus coriace et Adessa brillait par son absence. Déviant le coup, Nietzsche fit jaillir de ses mains du feu de sorcier, une arme qu'aucune magicienne n'aurait dû être capable d'utiliser. Thora esquiva l'attaque au dernier moment, mais les flammes lui roussirent une manche rappelant qu'elle n'était pas invulnérable. Fallait-il sauter? Eh bien, c'était très haut.
« Tu veux te suicider, Thora ?»
railla Nietzsche.
« Si tu as besoin d'aide, je suis là. »« Je veux sauver Hildacar, étrangère. Le seul moyen, puisque vous êtes tous contre moi, c'est de m'allier à Outros. Après votre défaite, je reconstruirai la ville.
En d'autres termes, tu es prête à trahir Ildakar comme Maxime?
Non, j'aime cette cité.
Révulsée, Thora lança un éclair que Nietzsche dévia avec une aisance déconcertante. Nathan, Elsa et Auron sur les talons, Lani émergea à son tour sur les créneaux.
C'est ce que tu me disais dans ta cellule, menteuse!
Lança l'ennemi juré de Thora.
Et maintenant, regarde-toi! Tu t'inventes des justifications, mais rien de ce que tu entends faire n'est bon pour Ildakar. C'est toi-même que tu aimes et que tu veux sauver. Je suis la Sovrenna, l'âme d'Ildakar. Tout ce que je fais...
Tout ce que tu fais, coupa Nietzsche, est nuisible pour les habitants d'Ildakar.
Ce soir, 1000 braves sont sortis se battre et des centaines ont péri pour lancer un défi au général Outros.
Crois-tu qu'ils auraient fait ça pour toi? Elle baissa le ton, soudain plus dure et menaçante. Aurais-tu risqué ta vie pour Ildakar?
Je ne ferai jamais rien contre ma ville.
Damon et Quentin arrivèrent, ajoutant la puissance de leurs dons à la magie qui crépitait déjà dans l'air.
Tu envisages vraiment de nous trahir?
Demanda Elsa, sincèrement déçue. Thora chercha une dénégation crédible. Regardant Elsa et Lani, elle sentit toute la haine que ces femmes lui inspiraient. Mais si elle se vendait à Outros, agirait-elle vraiment pour le bien d'Ildakar? Était-ce crédible alors que le général rêvait de raser la ville? Baissant les yeux sur la plaine, Thora balaya du regard la horde de Soudar, jadis pétrifiée par les sorciers d'Ildakar. Arrachés à leur époque et coupés de tout, ces hommes, si elle les aidait, chercheraient très logiquement à se venger. En d'autres termes, ils violeraient, tueraient et pilleraient comme les vainqueurs de tous les temps sous tous les cieux. Thora pouvait-elle livrer sa ville à ces rustres? Enfin, quelle folie la prenait, c'était impensable! Aider les ennemis d'Ildakar, elle? Alors que Nietzsche et les autres approchaient, prêts à unir leur magie contre elle, Thora comprit qu'il lui restait quelques secondes pour sauter. Mais elle ne put pas s'y résoudre.
« Je ne ferai jamais rien contre Ildakar, »
dit-elle à ses adversaires.
« Je ne suis pas Maxime. »
Baissant les bras, Thora inclina la tête et se laissa arrêter sans résister.